titre un journal dans un matin de France. À Marseille, à Brest ou à Nancy.
Demandez la vignette pour la fête de l'humanité.
Écoutez-vous, tu entends ?
La vignette pour la fête de l'humanité.
Demandez la vignette. T'as pas entendu comment elle dit ?
Pour le succès de notre fête.
Il n'a pas sa vignette.
Comment ?
Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, en direct, en public et en musique live depuis la fête de l'humanité.
À La Courneuve, plus précisément au parc départemental Georges Valbon. Georges Valbon, fils d'immigrés italiens, communiste, résistant, il a participé à la libération d'Elila, de Montreuil, de Rosny, de Romainville. Il est élu président du conseil général de la Seine-Saint-Denis et maire de Bobigny. Bien joué Giorgio! On est au studio de Radio France, avenue Simone de Beauvoir, et en face de l'Agora de l'Humanité, venez ! Une émission réalisée par Jérôme Chélius et Benjamin Riquet, assistée de June Loper avec Hélène Langlois, Hervé Dubreuil, Stéphane Beaufil à la technique. Aujourd'hui, et un grand merci à Pascal Lebray à la production.
Cette semaine, nous allons donc poser un instant nos micros pour recevoir Laurence Decocq, Françoise Vergès et Gérard Noiriel, trois historiennes et historiens qui fourbissent des arguments pour penser le présent, notre histoire populaire et nos mémoires coloniales. Et comme on peut très bien réfléchir en dansant, nous avons la chance d'être accompagnés par Bernard Lubat et François Corneloup du Quintet Révolution, vu qu'on est quand même à la fête de l'humanité.
Ah, demandez la vignette de la fête de l'humanité. La vignette.
Aujourd'hui, on voudrait nous faire taire. Eh bien non.
J'estime qu'il y a eu du bien et du moins bien, mais que le bilan est quand même positif.
Ah, quand est-ce que ça finira tout ça?
Ils sont forts, ils nous tiennent. Ils nous tiennent bien.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent?
Comme un bruit qui court dans les allées de la fête de l'humanité, un bruit dont nous faisons souvent l'écho à travers nos reportages, celui des luttes de ceux qui ne se résignent pas, des combats pour les droits et la dignité, et aussi parfois pour la vérité. Hier, au croisement des avenues Louise Michel et Simone de Beauvoir, une nouvelle place a été inaugurée, la place Maurice Audin. Un combat qui aura duré 61 ans pour qu'enfin la vérité en partie éclate et que le crime d'État soit reconnu. Une condition essentielle pour aller de l'avant et penser les plaies encore à vivre aujourd'hui. Le Monde est à nous proclame cette nouvelle édition de la fête de l'UMA. Alors façonnons-le à notre image, 450 stands et 3 jours de débat pour repenser le monde. Bienvenue en direct de la fête de l'UMA.
Une nouvelle édition, mais la première c'était en 1928 à Garches et depuis c'est tous les ans, sauf pendant l'occupation.
Chaque année, les lecteurs de l'Humanité se rendaient en masse à la fête de Garches, organisée par leur journal. Après une interruption de 5 ans, imposée par l'occupation allemande, le Parti communiste, le plus grand parti français, et son journal L'Humanité ont renouvelé la tradition dans le magnifique bois de Vincennes, qui offre le cadre nécessaire pour accueillir 1 million de Parisiens.
Demandez la vignette de la fête de l'Humanité.
La fête de l'UMA fait partie de notre patrimoine politique, social, culturel et populaire. En cette journée de commémoration du patrimoine, ça tombe bien. Mais patrimoine et matrimoine, s'il vous plaît. On est ici au carrefour des avenues Paul-Éluard, Olympe de Gouges, Jean Jaurès et Simone de Beauvoir. Heureusement, la parité est sauve dans les allées de l'UMA. En tout cas, pour le reste, les journées du matrimoine sont organisées par le collectif HF Île-de-France pour que l'histoire et l'héritage s'écrivent aussi au féminin.
Justement, au programme aujourd'hui, c'est l'histoire populaire et la mémoire coloniale. On sait que ceux qui font l'histoire sont rarement ceux qui la font écrire. Et les têtes de chapitre font toujours la part belle aux têtes couronnées, rois ou présidents. D'où l'importance de faire entendre d'autres acteurs que ces monarques, le peuple que certains désignent comme ceux qui ne sont rien. C'est cette histoire populaire que retrace Gérard Noiriel, celle de ceux qui sont relégués dans l'ombre des grands hommes, mais dont le rôle est toujours moteur. Là où ça se passe, là où ça casse. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de chapitres où ça coince pour le partisan du récit national. En particulier sur la mémoire coloniale, tiraillée entre revendications contradictoires. Laurence Decocq retrace son enseignement en France depuis les années 80, comment le passé colonial passe dans les manuels scolaires. Et Françoise Vergès, elle, nous fait revivre une figure méconnue en Europe, célébrée au Brésil, Zinga, reine des royaumes de Ndongo et Matamba, qui résista à la colonisation portugaise au XVIIe siècle. Jusqu'à 17h sur France Inter, comme un bruit qui court à la fête de l'UMA, en musique et aussi avec
une ode à l'UMA avec la compagnie Luba, donc Bernard Luba, François Corneloup, Simon Girard au trombone et Fabrice Viera au mégaphone.
Maurice Thorez remet la carte du parti au millionième adhérent.
En cette fête magnifique de l'humanité, au nom du comité central du Parti communiste, c'est la joie immense et la grande fierté de
N'avait pas de journal quotidien pour la défendre. De nombreuses fractions socialistes rivales et opposées divisaient le prolétariat. Jaurès fit appel à leur unité. Et l'unité se fait autour de l'humanité.
Bernard Lubin, merci François, François Corneloup, merci les amis, on se connaît bien, merci d'être venu ici pour faire cette ode à l'humain, il y en aura une autre tout à l'heure. Alors vous êtes avec Simon Girard au trombone et Fabrice Vira au mégaphone, merci d'être là. Alors Bernard Lubin, tu seras en duo avec Arthur H tout à l'heure sur la scène des Amis de l'humain et ce soir ça se terminera en grand bal, bien évidemment, comme vous savez faire. Et François Corneloup, toi tu es venu avec ton quintet de révolution et vous serez à Jazz Huma à 21h30 sur la scène Jazz Huma et tu finiras certainement aussi au bal total avec la compagnie aux Amis de l'Huma. Ah non, allez. Bon, merci à vous en tout cas. Oui.
Comme un bruit qui court, nous sommes donc en direct de la fête de l'Huma avec nos invités. Aujourd'hui, Gérard Noiriel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de l'Histoire populaire de la France aux éditions Agone. À vos côtés, Laurence Decoq, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de Dans la classe de l'homme blanc. Et à vos côtés, Françoise Bergès, bonjour.
Bonjour.
Vous préférez, c'est un livre qui s'intitule Dinga, histoire d'une reine guerrière, une biographie dépassionnée de cette figure de la résistance africaine à la colonisation.
Alors pour commencer justement, sur un indice du poids que porte la mémoire coloniale sur notre actualité avec Emmanuel Macron qui vient cette semaine de reconnaître enfin, vous allez me le dire, la responsabilité de la France dans la torture et la mort de Maurice Audin pendant la guerre d'Algérie. Une occasion pour nous d'abord pour réentendre sa femme et son fils que nous avions fait écouter en juin dernier, Josette Audin, qui s'est battue pendant 61 ans pour que la vérité soit faite.
Une page d'histoire maintenant avec l'énigme de la mort de Maurice Audin. Regardez, c'est cet homme.
Maurice Audin n'a jamais été revu vivant.
On a tué Audin.
Au mois d'avril, j'ai reçu une lettre et sur le côté, on voyait dessiner un drapeau. C'est un papier pour partir à la guerre en Algérie. Pour le gouvernement.
Des petites pinces d'acier brillant, allongées et dentelées.
Si j'ai tué,
il m'en fixa une au lobe de l'oreille droite,
si j'ai pleuré,
l'autre au doigt du même côté.
C'était pour les enfants, malheur à ceux qui envoient à la
la guerre. Des pauvres gens contre des pauvres gens.
Je croirais que c'était les arbres qui avaient tué.
Malheur à ceux qui envoient à la guerre. Des pauvres gens contre des pauvres gens.
Joseph Godin a aujourd'hui 87 ans. Elle attend depuis 61 ans que ce crime d'État soit reconnu. Il a fallu attendre 1999 pour que la France reconnaisse qu'il avait existé une guerre en Algérie. Ce qu'on appelait les événements d'Algérie a enfin été qualifié de guerre en Algérie. Cette reconnaissance d'un crime d'État, il faudra qu'un jour ou l'autre elle intervienne, et elle interviendra. Et le président de la République doit aujourd'hui tenir ses engagements.
Ici Alger, RTL.
1957.
Ce matin, le général Massu, chef de la division de parachutistes, a pris la responsabilité du maintien de la sécurité dans l'agglomération algéroise. Le général Massu, qui a la réputation d'être un homme énergique, a inauguré ses nouvelles fonctions en déclenchant une opération Casbah qui a commencé au milieu de la nuit pour se terminer vers midi.
Oui, la torture est un grand mot qui a été employé par nos adversaires tout de suite dans une campagne dès qu'ils ont vu les succès remportés par l'armée contre le terrorisme.
Plus de 5000 hommes, appuyés par de solides réserves, veillent ainsi à la sécurité des Algérois.
Je m'appelle Josette Audin et je suis la femme de Maurice Audin. Je suis née à Alger et on s'est connus à Alger.
Vous étiez étudiante à Alger ?
Oui, étudiante en mathématiques.
Vous étiez aussi tous les deux au Parti communiste algérien ?
Absolument, oui. En Algérie, il y avait, comme on disait à ce moment-là, les Européens et les musulmans. Et donc, les Européens, dans leur grande majorité, se sont mal comportés, disons, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on était un peu à l'écart, quoi. Enfin, on n'était pas d'accord avec ce que faisait la majorité des Européens en Algérie. Mais on a été minoritaires, finalement.
Le 11 juin, il y a 61 ans, 57, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ?
Eh bien, ils sont venus frapper à la porte et... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ?
Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?
Eh bien, ensuite, il a été impossible de savoir ce qu'ils avaient fait, où ils l'avaient emmené. Il n'y a jamais rien eu d'officiel, finalement.
Parce qu'au début, ils vous ont dit qu'il reviendrait, vite.
S'il est raisonnable, il ne reviendra. Et apparemment, il n'a pas été raisonnable, puisqu'il n'est jamais revenu.
Ils vous ont dit qu'il s'était évadé, non ?
Oui, bien sûr. C'était rien que des mensonges. À force, on est obligé de s'apercevoir que on ne connaîtra jamais la vérité, mais bon. Comment faire ?
Qu'est-ce qui bloque, à votre avis ?
D'après certains, il faut attendre que tous ceux qui ont participé à ça soient morts. Ça risque de durer encore un peu. Moi, je serai morte aussi, donc... Mais bon, je ne sais pas ce qu'on peut faire. De toute façon, maintenant, c'est comme ça, c'est comme ça.
Parce qu'il y a eu votre mari ? Mais il y a eu 3000 Algériens aussi qui ont disparu.
Bien sûr. Je ne sais pas comment faire. Je suis désolée d'être un peu muette, mais...
Non, par exemple, je n'ai pas de photo de moi avec mon père. Ah bah non. Moi, j'avais un mois et demi quand ils l'ont arrêté, donc... Je ne l'ai jamais vu en couleur, hein. J'ai toujours vu en noir et blanc mon père. Il est toujours à 25 ans et toujours immobile.
Josette Audin et son fils étaient en juin dernier. Alors aujourd'hui même, un cénotaphe à son nom est dévoilé au cimetière du Père Lachaise. Et ce mercredi, Emmanuel Macron a donc reconnu au nom de la République que Maurice Audin a été, je cite, « torturé puis exécuté ou torturé à mort par des militaires français ». J'ai envie de vous demander tous les trois, qu'est-ce que ça change quand ça vient si tard ? Gérard Noyel, Laurence de Coq.
Qu'est-ce que ça change quand ça vient si tard ? C'est-à-dire, en fait, quel était l'intérêt de reconnaître ça alors que c'est une histoire qui semble un petit peu voilà, disparu pour le coup. Ça change énormément de choses. C'est évidemment un événement qui, à mon sens, en tout cas, est absolument majeur. Alors c'est compliqué parce qu'évidemment, c'est quelqu'un qu'on critique beaucoup, qui en a pris l'initiative, et donc on a du mal à dire à quel point c'est important. Mais enfin, en l'occurrence, ça l'est, quoi. Le fait de reconnaître la responsabilité de l'État français dans la torture en Algérie, ça l'est. Il faut rappeler que c'est le fruit aussi d'un travail très long depuis maintenant presque 20 ans hein, d'historienne, notamment, mais pas que, de militants aussi. Sylvie Thénault, Raphaël Branche sont des historiennes qui ont travaillé sur la justice en Algérie, sur la torture en Algérie. Sylvie Thénault a beaucoup participé à cette reconnaissance-là. C'est absolument énorme parce que c'est une manière aussi, à la fois c'est une façon de rendre justice et c'est une façon aussi de restituer la vérité. Et nous, c'est notre travail de faire ça. Donc ça faisait longtemps qu'on était un certain nombre à le demander, oui.
Françoise Vergès, sur ce levier qui a finalement cédé après des années.
Moi, je pense que ce qu'il faut surtout souligner, c'est qu'il faut se battre pour la reconnaissance, même si elle arrive après, justement après, si soi-même on a été part de ce combat et que ça vient après nous. Ce que ça montre.
C'était le cas de Pierre Vidal-Naquet.
C'est le cas de Pierre Vidal-Naquet. Il faut absolument, je veux dire, ça ne changera pas tout de suite, les résistances sont grandes. Et c'est ça, moi, je trouve, c'est cette. C'est ce refus de laisser tomber, quoi, de se dire justement c'est passé, ça n'est pas passé. Donc pour moi, c'est de saluer ça et c'est un encouragement à le faire.
Gérard Noiriel, est-ce que ça pourrait être, monsieur Maurice Audin, ça pourrait être justement un de ces exemples des personnages du populaire, de l'histoire populaire de la France? Parce que oui. Je rappelle, c'était un jeune mathématicien, prof de maths, à Alger.
Oui, ben j'en parle d'ailleurs dans mon chapitre, effectivement. Mais justement, vous savez, dans les enjeux de mémoire, il y a toujours aussi des interprétations différentes qui peuvent être données. Et moi, j'aurais envie de souligner aussi la dimension de solidarité. Il est mort aussi parce qu'il était solidaire des colonisés, des Algériens. Et donc, c'est ce que rappelle Josette Audin aussi. Et donc, c'est cette dimension-là qui n'est pas tellement mise en valeur, je crois, par le président de la République. C'est-à-dire, c'est bien beau de reconnaître, etc., mais... Est-ce qu'il reconnaît aussi la légitimité de la lutte des militants communistes de cette époque-là? On n'a pas tellement entendu parler de ça, parce que c'est aussi une chose que le Parti communiste, bon, on a fait le bilan, etc., du parti avec tous les mauvais côtés, mais les militants, tout ce qui a été apporté, notamment ces luttes, cette solidarité, c'est un exemple qu'il faut donner aussi aujourd'hui à la jeunesse. Je ne pense pas que ce soit du côté de Macron qu'on la trouvera. Donc c'est cet aspect-là que j'aurais envie, moi, de privilégier aussi. Hein. Bon, la reconnaissance, enfin, effectivement, de ce crime d'État, mais sans oublier que voilà, c'est aussi un crime qui a voulu tuer des formes de résistance entre des gens qui faisaient partie effectivement des classes populaires au sens large que je donne.
Et ce qui est frappant aussi, c'est de voir à quel point la pilule de la perte de l'Algérie française, de cette lutte victorieuse pour l'indépendance du peuple algérien, eh ben elle est toujours pas passée dans certains milieux. Aujourd'hui encore, à chaque fois qu'on fait des émissions, qu'on consacre des émissions à ce sujet, on continue de recevoir des courriers qui soulignent que les communistes ont collaboré avec des poseurs de bombes criminels du FLN. On envoie des photos des attentats. Il y a des mémoires blessées qui sont transmises de génération en génération, qui alimentent aujourd'hui les discours de haine d'une certaine jeunesse. Comment sortir de là, finalement? Parce que la déclaration de Macron va aider à rétablir une certaine vérité, mais comment faire pour que ces vérités soient acceptées, finalement, de tous?
Mais elles ne peuvent pas vraiment être acceptées de tous. Et ce n'est pas, je pense que ce n'est pas vraiment la question. Je veux dire, la question, c'est de faire reconnaître ce que disait aussi Gérard Noiriel, la justesse de certaines luttes, et auxquels certains d'entre nous adhèrent totalement, et que d'autres n'y adhèrent pas, n'est pas non plus totalement étonnant que des personnes veulent maintenir le colonialisme ou l'État colonial en France, qui, rappelons-nous, continue à être une puissance coloniale, continue à avoir ce qu'on appelle les Outre-mer, est une chose, je veux dire, pour moi, absolument importante. Si vous voulez, la question de la résistance, c'est plutôt, pour moi, c'est plutôt ce qui m'importe, c'est la question de l'ignorance et de faire connaître, tout dans les écoles, dans partout, c'est ça. Que les opposants et leur mauvaise foi, ce n'est pas assez trop
leur
facile.
Leurs vieilles photos en noir leur et blanc qui nous envoient encore aujourd'hui.
Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est de faire comprendre, si vous voulez, que cette lutte du peuple algérien est une lutte absolument présente. C'est une lutte aussi pour la justice, contre la dépossession, contre l'inégalité. Et ce, donc, justement, qu'on peut mettre en relation avec des formes de dépossession et des formes de colonialisme qui sont là aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est aussi une longue histoire qui peut trouver des échos. Et là-dedans, trouver des leçons de solidarité, comme le soulignait Gérard Lauriane, mais aussi des leçons de courage et de savoir que quand on se bat, c'est sans garantie aussi. On doit se battre parce qu'il faut se battre.
Laurence de Coq, Françoise Vergès parlait justement de l'enseignement dans les écoles. C'est précisément le sujet de votre étude sur l'enseignement du fait colonial dans l'histoire, dans nos écoles. Et il va bien falloir, là un exemple, quoi. Là, il va encore falloir changer, encore une fois, les manuels scolaires de la guerre d'Algérie qui a été, je le rappelle, souvent appelée guerre sans nom, quoi.
Oui, alors ça, c'est une histoire assez compliquée. Moi, mon travail ne porte pas précisément sur les manuels scolaires. D'ailleurs, les manuels scolaires ont souvent été beaucoup plus francs et beaucoup plus bavards
que les programmes.
Pour donner une anecdote qu'on connaît mal, on parlait déjà dans certains manuels scolaires de la torture en Algérie et de la responsabilité de l'armée française au début des années 80 et à la fin des années 70. C'est précisément au moment où on a commencé à vous envoyer des photos en noir et blanc et qu'on a commencé à envoyer les mêmes au Parlement, au ministère de l'Éducation nationale, etc., que le ministère est devenu plus frileux et que les éditeurs de manuels scolaires aussi le sont devenus et que tout ça a été édulcoré. Mais d'une certaine manière, c'est un peu ce que je montre dans ma thèse, c'est que plus justement le problème s'est politisé et est devenu un objet de mémoire chaud, et plus son enseignement est devenu très problématique et très édulcoré. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous parliez tout à l'heure de transmission de mémoire blessée. En réalité, la transmission se fait mal, et pas simplement à l'école. Il n'y a pas que l'école qui est un lieu de transmission. Il y a aussi les familles.
Oui, les mémoires familiales.
Voilà. Moi, l'idée de cette thèse, elle m'est venue parce que j'étais à l'époque enseignante à Nanterre, dans un quartier populaire où vraiment j'avais que des élèves dits issus de l'immigration, et majoritairement d'une immigration coloniale et postcoloniale. Et moi, ce que je constatais, c'était que précisément, ça ne passait pas à l'intérieur des familles. C'était pas du tout une mémoire familiale qui se transmettait. Donc, on n'a pas la transmission d'une mémoire blessée, on a des interruptions de mémoire. Ça, c'est aussi la deuxième chose. Et la troisième chose, et c'est là que le travail de Gérard est salutaire et qu'il vient pallier justement un manque, c'est que cette histoire coloniale dans sa globalité, pas simplement celle de l'Algérie, mais aussi celle qui commence avec l'outre-mer, cette histoire coloniale, elle n'est pas insérée dans un récit qu'on pourrait appeler un récit national, ou en tout cas dans un récit qui nous est commun, dans un récit commun. Elle intervient toujours comme un avenant au contrat. Il faut tout à coup, on fait une dérive, on va parler un petit peu là de l'histoire coloniale. En réalité, depuis le XVIe siècle, l'histoire coloniale, elle est complètement tissée dans ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui. Et là, c'est la gageure qui nous attend, c'est de réussir à faire un récit commun dans lequel l'histoire coloniale, au même titre que d'autres histoires, soit comprise.
La gageure, vous dites.
Oui.
Comme un bruit qui court, alors on est toujours en direct et en public à la fête de l'UMA, où l'histoire s'écrit aussi ici, d'une façon qui nous intéresse et qui nous parle. On est bien évidemment aussi avec la compagnie Luba. Il y a un petit air d'Uzès ici, parce que Gérard Noriel, vous étiez venu à Uzès cet été pour présenter votre livre, donc une histoire populaire de la France.
Demandez la vignette de la fête de l'humanité. La vignette, demandez la vignette,
demandez la vignette pour la fête de l'humanité.
5 francs, la vignette pour la fête de l'humanité.
Demandez la vignette pour la fête de l'humanité.
Pour le succès de notre fête.
La fête de la vignette.
Le grand patronat n'accepte pas de plein gré qu'on atteigne ses privilèges. Il multiplie les pressions, organise un véritable tir de barrage contre le changement.
Thank you.
United States, the book is called A People's History of the United States. Une histoire du peuple.
C'est plus une histoire du peuple qu'une histoire populaire.
For me, the word means a history of the ordinary people in the United States.
Cela signifie une histoire des gens ordinaires aux États-Unis.
I wanted to show the victims of the society.
Je voulais montrer les victimes de la société.
La voix de Howard Zinn, enregistrée à l'émission Là-bas si j'y suis, il y a quelques années, à la sortie justement de son livre La mémoire populaire des États-Unis, d'Amérique, hein, c'est ça. Oui. Et alors, on est avec vous, Gérard Noriel, parce que vous venez de sortir justement, c'est ce qui nous intéresse beaucoup, c'est votre livre, donc, L'histoire populaire de la France. Vous êtes historien, donc, du monde ouvrier, de l'immigration, de la question nationale, et vous avez sorti ce livre aujourd'hui, qui est un peu sur les traces de cet ouvrage de Howard Zinn, hein, Une histoire populaire des États-Unis.
Mais pas pareil.
Voilà, oui, c'est vrai que ça a été mon modèle, puisqu'en fait, le projet que m'avaient proposé les éditions Agone, qui ont publié l'édition française du livre, m'avaient proposé de faire à peu près, enfin, de prendre Zinn comme modèle il y a une dizaine d'années. Et donc je me suis lancé, et puis je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus difficile que ce que j'aurais cru au départ. Là, et je me suis interrompu parce qu'après j'ai été pris dans d'autres projets, notamment sur l'histoire du clown chocolat, enfin, qui a donné beaucoup de choses diverses. Et donc je m'y suis remis il y a 2 ou 3 ans, mais là à fond, je dois dire, mais vraiment à fond, parce que écrire un livre de 800 pages, c'est sûr que... Et surtout, si vous voulez, c'était à l'opposé de ce que j'avais fait sur Chocolat, parce que Chocolat, justement, ça correspond à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un homme sans nom, quelqu'un qui n'a même pas eu d'état civil, un esclave qui arrive en France, on lui donne même pas d'état civil d'ailleurs, mais qui s'impose, qui réussit à devenir un artiste reconnu. Mais là, j'avais aucune archive, il n'y avait pas de source. Donc c'est dans l'infiniment petit. Alors que là, l'histoire populaire de France, c'est l'inverse. Voilà. Il y a une masse de choses, justement. C'est
autant
pas
de spécialités traversées.
Des spécialités. On ne pouvait plus faire comme Zinn, parce que Zinn, il a écrit son bouquin, il a travaillé dans les années 70, où il y avait beaucoup, justement, ce qu'il dit là, dans le petit extrait que vous avez choisi. L'histoire des victimes, je dirais, était inconnue. Encore les historiens n'avaient pas travaillé là-dessus. Mais grâce à lui, grâce aux historiennes, aux historiens des générations suivantes, beaucoup de choses ont été faites. Donc c'était plus, je pouvais plus aller vendre mon bouquin en disant je vais vous raconter une histoire que personne n'a jamais racontée. C'était pas ça. Il fallait donc une problématique plutôt. Et donc moi j'ai privilégié une problématique qui est plutôt celle de la domination que des dominés. Parce que pour moi le populaire c'est une relation sociale, si vous voulez. C'est pas uniquement les classes populaires. Parce que si vous voulez, quand vous réfléchissez, vous apercevez que l'identité des dominés elle est construite aussi par les dominants. Et je montre dans le livre qu'à toutes les époques, bon, je commence à l'époque de Jeanne d'Arc, je pourrais expliquer pourquoi tout
oui,
à l'heure,
mais venir.
À toutes les époques, finalement, eh bien, les luttes sociales se recomposent à partir des redéfinitions que les dominants, c'est-à-dire ceux qui maîtrisent l'écriture, les représentations, etc., construisent. Et les dominés se les approprient, luttent avec ça, et du coup, provoquent chez les dominants des transformations aussi. Donc il y a une dialectique entre dominants et des dominés, c'est ça qui m'a intéressé. Et c'est ce processus-là qui explique, qui justifie qu'on puisse parler d'une histoire du peuple français, oui, qui n'exclut à mon avis personne, et qui montre que les formes de domination, elles peuvent être aussi internes aux différents milieux. Et moi, je déifie pas le peuple, hein. Je veux dire, il y a des formes de domination. Ben, la question du genre, par exemple, ou même la question coloniale qu'on abordait, ou bien d'autres sujets, traversent aussi les classes populaires. Et il faut aussi parler de ça. Si on veut donner une vision lucide, avec ce que je dis aussi, c'est que l'historien, à mon avis, doit se distinguer des enjeux de mémoire, se tenir quand même à distance. Notre but, c'est d'expliquer le passé, de le faire comprendre, et pas de juger. Hein, c'est un autre schéma.
Mais justement, vous parliez de le sous-titre de l'émission, c'est de la guerre de 100 ans à nos jours, et vous faites débuter le livre, après une mention quand même des Gaulois qui ont bonne presse en ce moment,
voilà.
Depuis les déclarations de notre président, depuis le Danemark. Mmh. Vous parlez de Jeanne d'Arc, et c'est exactement l'exemple de l'usage et mésusage et utilisation et construction d'une image, que ça soit pour la défense de la nation de l'envahisseur, ou bien que ça soit pour la célébration de la France blanche de tradition chrétienne.
C'est ça, oui. Alors effectivement, dans un premier temps, j'avais pas du tout pensé faire allusion à Jeanne d'Arc, évidemment, puisque c'est une sorte d'archétype de l'histoire, ce que j'appelle monarchiste, hein, qui a le vent en poupe. Quand vous voyez ce qui se passe, ce qui est diffusé dans le service public comme histoire, on croirait que la Révolution française n'a même pas eu lieu encore. Bon, mais en même temps, je me suis dit, tiens, finalement, c'est pas si idiot que ça, parce que c'est vraiment Parce que je me suis demandé, quand est-ce qu'on peut faire dater le début du peuple français au sens large du terme, parce que j'implique aussi la question coloniale qui évidemment débute, enfin dans le cas de la France à peu près à la même époque. Et là, l'idée, c'est que ce qui distingue une population d'un peuple, c'est qu'un peuple sont des individus qui sont liés entre eux. Et qu'est-ce qui fait le lien ? C'est l'État. Et on voit très bien d'ailleurs que les premières grandes luttes populaires, c'est des luttes antifiscales. Il y a vraiment un lien, donc la question de l'impôt, la question de la force physique, sont liées à l'émergence de l'État. Or, l'une des particularités de la France, c'est l'ancienneté, la continuité de l'État. Hein, c'est quelque chose de faramineux, la centralité de l'État. Donc voilà, j'ai considéré que c'était légitime de prendre le 15e siècle comme point de départ de cette histoire. D'autant plus que j'avais aussi pour ambition que ce passé permette de nous comprendre le présent, c'est-à-dire les mutations dans lesquelles nous sommes engagés aujourd'hui, notamment avec notre président de la République, qui, j'ai analysé son...
Oui, il y a un chapitre.
Il y a un chapitre. La conclusion, elle est sur son petit livre Révolution, là, son programme politique.
Voilà un exemple d'histoire immédiate.
Voilà, où lui s'appuie beaucoup sur l'histoire, hein, faut voir. Mais c'est pour justifier le libéralisme. Donc c'est complètement à l'opposé du populaire. C'est-à-dire, il ne voit pas l'existence des classes populaires. Pour lui, la France a toujours été une classe moyenne, c'est-à-dire son propre milieu social. Les CS+, les CSP+, voilà.
Plus. Et justement, Gérard Noriel, vous insistez sur le fossé de plus en plus large, de plus en plus profond, qui sépare les élites de notre pays de son peuple.
Oui, il y a un fossé qui... alors évidemment, les choses sont quand même changées depuis l'époque de Louis XIV, où là, on réglait ça à coups de violence. Enfin, quand on voit les massacres, enfin, c'est vraiment impressionnant, hein, la violence physique. Progressivement, grâce aux luttes populaires, on a une évolution et donc une pacification globalement à partir du XVIIIe siècle. Mais en même temps, effectivement, il y a un fossé qui se creuse, et je crois qu'il s'est recreusé depuis les années 1980. Parce que je pense que les années 1980 ont été un nouveau tournant dans l'histoire, dans notre histoire, avec la reprise en main de beaucoup d'acquis de 68, de ce qui s'était passé dans les années 70, et donc effectivement là un recul sur un certain nombre de points et la progression des inégalités, ça tout le monde le constate aujourd'hui. Donc il y a effectivement une inquiétude, c'est aussi pour ça que j'ai voulu revenir moi au populaire, parce que j'avais été focalisé, vous l'avez dit, sur l'immigration, etc., mais remettre l'impact sur la dimension sociale, je trouve que c'est extrêmement important aujourd'hui.
C'est là où on voit les 1%.
Voilà, c'est ça. Parce qu'autrement, aujourd'hui, on a une atomisation des luttes, une difficulté à faire converger tous ceux qui souffrent aujourd'hui de formes diverses de domination. Et donc ça, c'est un enjeu majeur. Et si j'ai un espoir, c'est que ce livre puisse contribuer à redonner justement de la vigueur à la dimension, je dirais, sociale des luttes populaires.
Alors Gérard Noriel, c'est aussi un manuel d'éducation populaire à la lutte sociale, quoi. On voit les nouvelles générations, alors les générations ingouvernables, le cortège de tête, etc., ceux qui mènent aujourd'hui un peu la contestation frontale et sociale. Alors ça leur permet justement de comprendre, parce que bon, j'imagine qu'ils voient bien ce que c'était la révolte, enfin la contestation sociale en 68, parce que leurs parents ou leurs grands-parents ont vécu ces moments-là.
Et qu'on a célébré le 50e anniversaire.
En plus. Mais comment ça se passait la contestation sociale, la lutte sociale au Moyen-Âge, parce que votre bouquin commence effectivement de la guerre de 100 ans, quoi.
Voilà. Alors, il faut bien voir que les résistances populaires, elles peuvent être multiples. Je montre, par exemple, le rôle de la sexualité. Le rôle de la sexualité est extrêmement important, à la fois dans le monde colonial, puisque tout, le métissage, etc., enfin, la mise en cause de l'image, de la blanchité, etc., bon, c'est bien lié à cela. Mais aussi, ce qu'on sait moins, peut-être, c'est que les formes de résistance paysanne en France au 19e siècle, ça a consisté notamment à réduire le nombre des enfants. Hein, parce qu'on ne voulait pas partager, voilà, le petit lopin que les paysans avaient accroché à leur terre. Et c'est une des causes majeures du recours à l'immigration de masse en France à partir de la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire cette capacité que les classes populaires avaient à résister à l'industrialisation à l'exode rural, à entraîner, voilà. Donc c'est un exemple. Donc les luttes, elles ne sont pas forcément avec des manifs, des grandes pancartes ou des révolutions.
Ou
des gourdins. Donc au Moyen-Âge, c'est pareil. Alors au Moyen-Âge, là où les... Parce que là, faut bien voir que dans ces périodes, jusqu'au XVIIIe siècle, les gens, quand ils se révoltent, c'est parce qu'ils sont au bord de la mort. C'est la question de vie et de mort qui est posée. Hein. Donc c'est dans les famines, quand ils sont dans des périodes de famine et où on voit l'État qui vient encore imposer de nouveaux impôts. Donc là, si vous voulez, ça explose. Donc il y a des formes comme ça de résistance populaire, de communes qui se constituent avec des alliances, des micro-alliances qui peuvent exister. Parfois d'ailleurs, dans les luttes entre la bourgeoisie et la noblesse, ils essayent de mobiliser les classes populaires parce qu'ils ont besoin d'un bras armé pour prendre le pouvoir. Mais dès qu'ils encouragent ces luttes, quand le peuple... se met en lutte, il ne fait pas la différence. Mmh. Donc les privilégiés commencent à prendre peur. Et la plupart du temps, ils se retournent et finissent par se contribuer à massacrer le peuple. C'est ça la tradition, je dirais, classique jusqu'à la Révolution française.
Laurence de Coq, on va y venir justement dans la suite de l'émission, mais dans votre livre, vous montrez comment l'enseignement de l'histoire officielle est tiraillé entre deux injonctions contradictoires, faire le récit, promouvoir l'unité de la République d'un côté, et tout en racontant le passif, là pour le coup, colonial, comme disait Gérard Noiriel, et ce qui contredit souvent les beaux principes qu'on veut mettre dans nos têtes blondes ou plus ou moins blondes.
Oui, bah évidemment, l'histoire coloniale fait partie des thématiques sensibles dans la mesure où l'école en France est intrinsèquement liée à la question de la République. C'est l'école républicaine. L'histoire coloniale, en tout cas dans sa dimension 19e, hein, parce que l'histoire coloniale en Outre-mer, elle n'est pas forcément liée à la République, c'est encore autre chose. Mais dans sa dimension plus moderne, à partir de la colonisation algérienne, c'est une histoire qui dit en substance la République est faillible. Et elle est faillible sur les points qu'elle promeut, c'est-à-dire sur les questions d'égalité, de fraternité, etc. Alors évidemment, lorsqu'on est dans une école qui a pour vocation à être, on va dire, l'antichambre de la transmission des valeurs de la République, avoir une thématique qui est l'idéal type, on va dire, de la négation de ces valeurs de la République, c'est pas la seule, hein. L'occupation, par exemple, on en est une autre. Mais c'est compliqué, ça met les enseignants dans de vraies tensions, et puis ça met surtout ceux qui sont censés écrire les programmes d'histoire aussi dans de vraies tensions. Ce que je montre, moi, c'est qu'à partir des années 80, la question de l'universalisme républicain, elle est tiraillée à l'intérieur même de l'institution. C'est-à-dire que, en fait, le début des années 80, d'ailleurs, Gérard le disait, c'est vraiment un moment majeur dans l'histoire politique française, en particulier par rapport à la question de l'immigration et en particulier par rapport à l'immigration coloniale et post-coloniale, parce que c'est un moment où on commence à culturaliser cette question. Hein, c'est-à-dire qu'on va plus dire le travailleur immigré, on va dire l'immigré maghrébin musulman.
Ouais, vous insistez bien là-dessus.
Voilà. Et en fait, l'école participe à cette catégorisation culturelle. C'est-à-dire que l'école, mais avec toute sa bienveillance, encore une fois, hein, de manière très bienveillante, l'école dit « Oh là là, mais ces enfants, ils sont différents, ils n'ont pas la même culture d'origine, ils n'ont pas les mêmes repères culturels, les mêmes manières de penser, etc. Est-ce qu'on pourrait pas quand même adapter nos programmes scolaires à leur présence ?» Et ça provoque énormément de tensions entre ceux qui vont dire « Oh là là, mais attention, on va ouvrir le vase de Pandore, on va raconter une histoire qui fâche. » Et ceux qui disent « Oui, mais en même temps, on a besoin de cette histoire qui fâche parce que ces enfants ont besoin de se sentir bien là. » Et en fait, on est encore complètement dans ces tensions aujourd'hui. On n'arrive pas à articuler comme il faut cette question de l'universalisme un peu idéalisé et cette question de la reconnaissance des identités multiples. Et l'histoire coloniale me semble être l'un des contenus d'enseignement le plus emblématique pour interroger ces problématiques-là.
Merci Laurence de Coq, merci Gérard Noiriel. On va finir quand même avec un petit peu de Wardine, hein. On va conclure, on va fermer la parenthèse avec un peu de Wardine. Et aussi avec donc Bernard Luba, avec Johan Scheidt et Fawzi Berger qui sont revenus parce que François Corneloup est parti avec son tromboniste Simon Girard. Et avec leur quintette Révolution, ils ont du pain sur la planche.
I wanted to show the victims of the society.
Je voulais montrer les victimes de la société.
The men who created the Constitution of the United States in 1787.
Les hommes qui créèrent la démocratie aux États-Unis.
Did not want a democracy.
Ne voulaient pas la démocratie.
They wanted a strong central government that would serve the interests of the elite.
Ils voulaient un gouvernement fort, centralisé, qui serve les intérêts de l'élite.
Ça a été un coup fort. Alors, pour ceux qui sont au parfum, ça fait longtemps qu'à Uzeste, on a élevé les impros à la source. N'est-ce pas ? Il faut être clair, musique à vivre ou musique à vendre. Musique à vivre ou musique à vendre. Alors profitez-en, c'est pas tous les jours que vous entendrez ça à la radio. Évidemment, la musique à vivre est assez déglinguée, n'est-ce pas? Elle n'est pas radicalement calme, elle n'est pas en ordre, elle est désordonnée! Qui, moi?
Oui, so, ah.
Jaspanique, swing au maniaque, ça m'a pris de puter, je sais celle de ma peau d'or, c'est animal, pas d'arc! Tu dis que tu aimes les fleurs et tu leur coupes la queue. Alors tu dis que tu m'aimes et j'ai peur un peu.
Merci. Merci Bernard, Bernard Lubin, Johan Scheidt, Fabrice Viera et Fawzi Berger. Merci d'être là. On vous retrouvera ce soir, tout à l'heure, aux Amis de l'UMA pour un duo, donc Bernard Lubin, Arthur H. Et après, le bal de la compagnie Luba. Une musique qui n'est pas à vendre, mais qui est quand même souvent avec nous à Radio Use et à Comme un bruit qui court. On continue.
Comme un bruit qui court, en direct de la fête de l'UMA.
Oh, un bruit qui court
sur France Inter.
Dans la classe de l'homme blanc, c'est le livre dont on parlait à l'instant avec vous, Laurence Decoq, qui est le fruit de votre thèse, je crois.
Oui.
Et vous racontez en fait comment, à partir de cette année cheville, enfin cette période charnière des années 80, la question du fait, l'enseignement du fait colonial est devenu vraiment un prisme pour penser la question de l'immigration dans la société française. Il y a les deux questions qui s'achoppent dans les débats publics, dans leur reprise par les politiques, et on verra après aussi dans les programmes et les manuels, deux choses différentes.
Oui, en fait, ma thèse interroge vraiment le lien entre des débats publics, politiques qui sont en train de se construire autour de la mémoire coloniale qui devient un prisme pour penser la question de l'immigration à partir des années 80, et la manière avec laquelle il passe ou pas dans les classes. Ma thèse porte vraiment là-dessus. C'est-à-dire que, comme je considère que les programmes scolaires sont des textes politiques, j'essaie de voir en quoi ils entretiennent en fait des relations avec les débats politiques. Qu'est-ce qui fait résistance? Qu'est-ce qui fait tension? Qu'est-ce qui fait débat? Au nom de quoi se font les arbitrages? Alors effectivement, à partir des années 80, on le disait tout à l'heure, il y a véritablement, et ça à l'échelle de la société tout entière, un processus de culturalisation de la question d'immigration qui passe donc en fait par la valorisation des origines culturelles ou la mention des origines culturelles pour parler de la question immigrée. Et ça, la question coloniale vient se greffer à ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire coloniale est appropriée par les populations immigrées, peut-être pas dans leur majorité au départ, mais dans une grande partie, par les populations immigrées, par les populations qui se disent héritières de cette histoire-là, par les populations qui se disent descendants d'indigènes, par exemple. On a la construction d'un discours par ces populations discriminées en France, victimes de racisme, victimes de violences policières, etc., qui progressivement aboutit à cette idée que le passé colonial, donc le passé, explique en fait les discriminations au présent. Le texte emblématique de ça, c'est le Manifeste des indigènes de la République, voilà, en 2005, qui dit nous sommes les indigènes de la République, c'est-à-dire que nos parents ont vécu des oppressions, des répressions, et ce que nous vivons encore aujourd'hui, finalement, entretient plus que des liens avec ça, c'est la reproduction de ça, car le passé colonial n'est pas cautérisé, il n'est pas terminé, et qu'il y a des traces du colonialisme encore très très fort dans la société française. Évidemment, pour les autres, entendre ça, c'est extrêmement violent. Donc c'est un texte qui déclenche des débats absolument énormes, et moi j'ai voulu voir si ça avait des effets dans la façon de transmettre cette histoire-là.
Justement, Laurence Decoq, pour donner une idée de ces débats-là, vous avez parlé de l'époque des années 80, et ce moment où 2005, le discours commence à mûrir et à détaler, un exemple de ce qui se disait à l'époque dans les informations.
François, janvier 2006.
Alexandre Bozat est professeur d'histoire dans un lycée de Créteil, en banlieue parisienne.
Aujourd'hui, il va ouvrir avec ses élèves de première littéraire un nouveau chapitre du programme, celui de la colonisation.
C'est quelque chose qui t'intéresse, toi, personnellement ?
Pour enseigner cet épisode controversé de l'histoire, l'enseignant tente de replonger les élèves dans le contexte de la conquête coloniale au XIXe siècle. Les opposants à la colonisation, comme Georges Clémenceau, mais aussi ses partisans, au premier rang desquels Jules Ferry, qui estimait qu'il était du devoir des races supérieures de civiliser les races inférieures.
Et cette croyance est partagée par énormément de républicains de l'époque.
En fait, il y avait un but précis là-dedans. C'était pas pour chercher à connaître les populations ni leur culture. C'était vraiment pour s'en servir, en fin de compte.
Un autre exemple de ce qui n'est pas dans les livres d'histoire, par exemple, et dont on avait envie de vous parler aujourd'hui, c'est cette reine, Zinga, qui était une reine qui a régné au XVIIe siècle dans ce qui est aujourd'hui l'Angola, et dont vous rédigez la préface de l'ouvrage, Françoise Vergès. L'ouvrage a été écrit par une historienne américaine, Linda Haywood. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir comment justement la domination se construit, pas seulement par les conquêtes militaires, mais aussi en écrivant l'histoire des autres. Parce que si on s'en tient aux récits que les Européens ont fait de cette reine, que ce soit les missionnaires chrétiens à l'époque ou plus tardivement les romanciers du XIXe siècle, on a véritablement affaire à une reine barbare, une cannibale assoiffée de sang, qui broyait les nouveaux-nés aux mortiers, qui dévorait le corps de ses ennemis. Hegel, le philosophe, en parlait comme la prenait comme exemple comme l'incapacité des Africains à entrer dans l'histoire, et le marquis de Sade faisait d'elle une déviante, le parangon de luxure et de cruauté. C'est comme ça qu'elle est décrite par les Occidentaux. Par contre, si on voit du point de vue africain, alors là, on n'a pas du tout, évidemment, le même portrait pour les descendants d'esclaves aujourd'hui par le monde. C'est une grande héroïne africaine qui a su préserver l'indépendance de son royaume face aux colonisateurs. Et c'est un symbole de la résistance à la colonisation. On voit bien que selon le regard, selon le point de vue, on n'a pas du tout le même personnage et la même histoire qui s'écrit.
Oui, ce qu'on voit avec la biographie de la reine Zinga. Déjà, dire reine, c'est un mot, je dirais, est-ce qu'on l'appelait reine là-bas, vous savez, alors elle n'était pas appelée ainsi. Bon, mais ce qu'on apprend, c'est qu'effectivement, le continent africain, d'abord, il est vaste. Hein, quand on dit l'Afrique, on croit que c'est un tout petit pays où on parle africain. C'est un continent très vaste qui a eu des royaumes, pour ainsi dire, des empires, des routes de commerce, de grandes universités. Toute l'Asie avait des liens millénaires avec l'Asie, des liens de commerce, de circulation d'idées. Donc c'est pas du tout un continent fermé sur lui-même qui attendrait l'arrivée des Européens pour naître à lui-même, comme effectivement va un certain récit.
Comme on l'avait fait pour l'Amérique.
Donc ça, c'est vraiment pour moi important. C'est aussi, avec la reine Zinga, avec cette biographie, on comprend que même la notion de genre, telle qu'on l'utilise tout le temps, n'est pas toujours pertinente. La ligne de division, elle était entre libre et non libre. Dans ces sociétés, d'ailleurs dans beaucoup de sociétés. Rappelons même que dans la société française, beaucoup de femmes n'ont pas de droits civiques, mais elles ont le droit de posséder des esclaves, hein, au XVIe, XVIIe siècle. Donc cette question de la position du genre n'est pas... On l'associe trop facilement à l'oppression des femmes, et il y a des contextes. Cette reine est formidable. Moi, je la connaissais, enfin, je connaissais son personnage, mais c'est une guerrière, c'est un personnage romantique, au sens de... Elle est extraordinaire, elle a une très grande finesse politique. Elle comprend. En même temps, alors on m'oppose qu'elle a aussi vendu des esclaves. Parce qu'effectivement, les Européens imposaient tribut aux souverains africains. Et le tribut, c'était où on vous envahit, ou vous nous faites tribut d'esclaves. Donc, mais elle, c'était évidemment les peuples voisins. Mais n'oublions pas que l'esclavage est un régime qui règne dans le monde partout à l'époque, puisque c'est aussi la force de travail. Elle est la force humaine à l'époque. Il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de machines. Mais en tout cas, ce système esclavagiste n'est pas un système qui s'étend sur le monde, d'une part, et qui va de toute façon donner le capitalisme. Alors la reine Zinga, pour moi, est un personnage extraordinaire. Elle fait partie aussi de ces... Et là, je rejoins pour un peu ce que disait aussi Laurence, c'est-à-dire, si par exemple on faisait l'histoire du féminisme, ça ne devrait pas être Colin de Gouges et Simone de Beauvoir. Voilà. Ça devrait être aussi la mulâtresse Solitude, la Queen Nanny qui a dirigé des communautés marronnes en Jamaïque, la reine Zinga. En fait, d'autres personnages, ce sont des personnages complexes, on n'est pas en train de chercher des femmes toutes gentilles. Mais elle montre une volonté de... Je veux dire, ça, c'est vraiment toute une histoire sur aussi ce que c'est le pouvoir, comment est compris le pouvoir, la guerre, la question de la frontière, la question de la souveraineté. On sait qu'elle va protéger aussi tout ce qui sont les rituels de son peuple contre l'avancée du catholicisme portugais, qui est quand même bien costaud.
Bien qu'elle se convertisse.
Et qu'elle se convertit parce qu'elle est intelligente. Elle comprend que si elle se convertit et que si le pape la reconnaît comme fille de l'Église, elle va être protégée des Portugais. Parce que, et en même temps, elle continue à perpétuer ceux qui sont les rites et les croyances de son peuple. C'est quelqu'un d'extrêmement... qui a compris ce que je trouve intéressant. Elle comprend les rapports de force. Et c'est là ce que vous dites, c'est-à-dire dans sa lutte contre le colonialisme, elle comprend les rapports de force qui sont en jeu à ce moment-là dans cette partie du monde. À la fois les Européens qui ne restent que sur la côte, mais qui commencent à vouloir pénétrer, qui ne pénétreront complètement qu'au XIXe siècle, mais qui commencent. Et elle comprend le rapport de force et elle comprend qui est le pape. Elle comprend qui est la figure du pape et pourquoi elle a intérêt à se lier à cette figure dans ce monde où les Européens sont en train d'arriver. Donc je trouve que c'est quelqu'un d'une très grande finesse diplomatique, d'une grande force politique, très complexe, effectivement, les bébés. C'est quelqu'un qui, comme vous le savez, avait un harem de femmes, un harem d'hommes, qui force des hommes qu'elle épouse à s'habiller en femme. Enfin, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire.
Ça donne très envie de le lire. Donc, ça s'appelle Ninda, aux éditions La Découverte, et que vous préfacez, pardon, Françoise Vergès.
Merci à vous trois d'être venus nous retrouver ici à la fête de l'UMA. Donc, on était en direct à la fête de l'UMA. C'est comme un bruit qui court. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de cette émission. Ka 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 ka.